Un sol majeur.
Un sol majeur.
Il a rencontré Charlie, Jean, Georges et André, plus connus sous le nom de Chaplin, Cocteau, Brassens et Breton. Notre invité, véritable jeune homme de 83 ans, s'appelle Gérald, comme Blancourt. Alors dans la première partie de l'émission, il nous racontait 1946, année où il fut l'un des leaders de la révolution des Cinq Glorieuses en Haïti, où il est né, avant d'en être expulsé. Et c'est donc en tant que chasseur d'images qu'il est revenu par la fenêtre nous parler du monde, des prolos, des bidonvilles, des grèves, des survivants de certaines catastrophes, avec un déclic tout particulier pour tout ce qui concerne les luttes des décolonisations comme les luttes populaires, syndicales et ouvrières. Et d'ailleurs, j'ai regardé, Gérald Blancourt, vous avez été membre du PCF dès 1949. Vous avez travaillé au journal L'Humanité, qui vous a envoyé assez rapidement sur tous les conflits. C'était un peu dans la logique de votre acte de rébellion premier. Vous poursuiviez votre credo politique, vous qu'on avait privé de la Révolution.
Mais quand je suis arrivé en France, nous étions communistes. Bon, sans savoir, par la suite, je me suis dit, sans savoir exactement de quoi il s'agissait à l'époque. Mais enfin, nous étions communistes, et j'étais donc communiste. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donné mon adhésion au Parti communiste. D'ailleurs, je me suis d'abord occupé de quelques réunions avec des camarades haïtiens qui étaient arrivés comme moi en Europe. Et j'ai donné mon adhésion en 1948, même un peu avant, au Parti communiste. Et j'étais donc militant. Et à l'époque, j'ai préparé le professorat de dessin de l'État et de la ville de Paris, la Grande Chaumière, le 80 Montparnasse, etc. Mais il fallait manger. Voilà. Donc j'ai trouvé un job dans une boîte qui s'appelait pompeusement les éditions photographiques universitaires. Et on travaillait tout de suite après Nadar. On a succédé à Nadar avec la grosse chambre 1824, les plaques à verre, la poire, le voile. Et j'ai donc appris mon métier sur le tas. Et comme j'étais militant communiste, un jour j'ai été convoqué par les organismes du comité central, et on m'a annoncé que je rentrais comme reporter photographe à l'Humanité. Mais ça n'avait rien à voir. Comme j'ai dit, la photographie ne s'écrit pas avec un grand P, il y a toutes les photographies possibles, mais le journalisme, le photojournaliste, je ne connaissais pas. On m'a dit, il n'y a pas de problème, mais quand la révolution russe s'est faite, Popov, il a pris, on lui a dirigé la banque, il avait son revolver, toi tu rentres et tu vas être reporter. Donc j'ai dit d'accord, et on m'envoyait faire le sport. Et on m'envoyait au Veldiv photographier les matchs de boxe. Mais moi, j'étais très mauvais photographe de boxe parce que je regardais les types se taper dans la gueule et j'oubliais d'appuyer sur le bouton. Et un jour, par hasard, c'est un match de boxe extraordinaire, Percy Bassett et les femmes chants. Et par hasard, j'ai appuyé sur le bouton au bon moment, j'ai une photo extraordinaire. Et après, on me disait, ça, c'est le grand photographe de sport. Mais j'étais nul comme tout. Et comme ça ne m'intéressait pas, absolument pas, j'ai demandé à rejoindre le Front du Travail, où il y avait un vieux communiste qui s'appelait Octave Rabaté, je me rappelle de son nom, qui dirigeait ce service. Et il s'occupait, il suivait les grèves et tout ça, c'est ce que je voulais faire. Et moi, je voulais être gros-mère, vous savez, le graveur gros-mère. Je voulais être gros-mère avec mes photos, photographier cette gueule de travailleur, ces choses dans le style gros-mère. J'avais ça, parce que j'avais une culture, disons, un peu artistique.
Ouais.
Et donc j'ai...
Et parce que vous vous sentiez aussi des petits, des gens du peuple aussi.
Et moi, j'étais avec les travailleurs. J'étais vraiment... J'ai pris parti. Je suis pas objectif, j'ai pris parti. Je me suis engagé directement. Et donc, j'ai suivi ces gens dans les grèves. Je buvais leur vin, je mangeais leur pain. Et j'ai découvert comme ça ces hommes et ces femmes. Et ce qu'on appelait la classe ouvrière.
Et vous n'avez pas photographié que la classe ouvrière, Gérald Blancourt, vous avez photographié aussi les amoureux des bancs publics. Que... Attendez, vous vous souvenez avoir photographié les amoureux des bancs publics? C'était d'ailleurs votre côté Doisneau et Brassens mélangés, ça.
Eh bien, je suis de la même époque. Nous avons été d'ailleurs ensemble avec Doisneau et Cartier-Bresson et Pic et Villironis. Nous avons été fondateurs de l'ANJRPC, l'Association Nationale des Journalistes et Photographes. Donc c'était l'époque un peu quand même. Mais enfin, je ne suis pas Doisneau avec ce génie qu'il a, des belles photos de Paris qu'il a faites. Moi, c'est tout à fait différent. Je ne vois pas les mêmes choses. Mmh. Et mon appareil ne sait pas voir les mêmes choses que lui. Moi, j'ai surtout vu et les grèves. J'ai photographié aussi des amoureux, bien sûr. Mmh. Mais
et vous avez croisé Brassens, alors ?
Alors, Brassens, oui, je l'ai rencontré chez Catherine Sauvage avec Jean-Pierre Chabrol qui m'y a amené. J'ai rencontré Brassens chez Catherine Sauvage. Et là, c'était là au moins la mauvaise réputation.
Ouais.
Et alors là, j'ai rencontré plusieurs fois, évidemment.
Et il ne se souvenait pas du tout de votre nom, hein, jamais ?
Non, il m'appelait Révolution.
Vous savez quoi ? Vous avez demandé qu'on écoute Brassens. Vous n'avez qu'un mot à dire, et puis Brassens démarre.
D'accord.
On y va ?
Et je veux bien.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Georges Brassens sur RFI et dans l'objectif de notre invité en sol majeur, Gérald Bloncourt, un haïtien en exil qui exalte son amour de pays natal grâce à la poésie et à la photographie. Prendre racine, ça signifie quoi pour vous ?
Prendre racine, là, et c'est être, c'est avoir tété et le lait du pays, quoi.
Ouais. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un Européen avec les fenêtres grandement ouvertes sur le large ?
Non, je crois que je suis européanisé par force majeure. Mais enfin, je suis où je vis, je me bats où je suis avec les gens qui veulent se battre et qui veulent changer les choses.
Vos racines sont internationales ?
Mais, oui, je suis un citoyen du monde, hein, de toute façon. Mais j'ai toujours ce petit pays tellement dans les tripes, quoi.
Oui. Alors, vous l'avez retrouvé très tardivement, ce petit pays, hein, en 1986 à 60 ans. C'était comment, ces retrouvailles ?
Enfin, il y a des tas de choses qui ont changé, bien sûr. La ville est devenue un immense bidonville. Je parle de la capitale. Et la misère a centuplé. Mais c'est toujours vous savez, ma première arrivée. Et les copains sont venus me chercher à l'aéroport et j'ai demandé tout de suite d'aller sur le Champ de Mars où j'avais habité avant de partir d'Haïti, dans une maison qui était juste à l'angle d'une petite ruelle qui s'appelle la ruelle Piquant, qui débouche sur le Champ de Mars. Et quand je suis arrivé là, il y avait une sorte de petit égout. Je me suis penché au-dessus et j'ai respiré. Les copains m'ont dit, mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai dit, je retrouve les odeurs du pays. Et j'ai redécouvert.
Vous aviez besoin de ça?
Ah oui, j'avais besoin de ça. C'est fantastique comment la mémoire, les goûts qui reviennent, des choses que j'avais pas mangé 60 ans avant, et j'étais invité chez des amis, tout ça, et à l'instant ça pénètre dans la bouche, les goûts reviennent avec les bruits de la vie qu'on a vécu à ce moment-là, c'est fantastique. Mais j'ai quand même retrouvé le langage de parler. Alors, la langue créole, c'est fantastique, a évolué. Il y avait des tas de mots nouveaux, mais que j'ai rapidement réintégré. Mais il y avait des choses, mais c'était quand même ma langue, et j'avais gardé ma langue. Je pouvais quand même me faire comprendre.
Donc une petite distance, et en même temps le sentiment d'être dans les Charentaises, quoi.
Absolument. Mmh.
Cela dit, c'est par le biais du militantisme que vous vous êtes enraciné dans ce pays, même à distance. Vous êtes depuis 1998 le fondateur et secrétaire général du Comité pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Haïti, plus connu sous le nom du Comité pour juger Duvalier. Donc vous avez toujours été actif, même à distance.
Oui, je pense, oui. Enfin, j'ai cherché à faire ce que je pouvais.
Est-ce que Bébé Doc a été inquiété depuis la création de ce comité ?
Eh bien, oui, nous l'avons amené jusqu'au tribunal. Seulement, je pense que le gouvernement français ne veut pas de procès Duvalier, parce qu'il est arrivé avec 850 millions de dollars. Et au cours d'une conférence de presse que j'ai faite à Saint-Méry en 81, où je participais à une grève de la faim, j'étais le porte-parole de ce comité de grévistes, et j'avais dit aux journalistes qui étaient présents, vous savez combien, j'avais trouvé 800 millions de dollars avec mes copains, mais deux journalistes américains avaient annoncé 850 millions de dollars. J'ai dit, vous savez ce que ça représente? À raison de 5000 dollars par mois, la paye nominale du président de la République, il aurait fallu qu'il ait commencé à dépenser sa fortune avant la naissance du Christ. Et on peut peut-être même remonter jusqu'aux guerres helléniques, et ça avait fait rire tout le monde, malgré que la situation était dramatique. Et ça a été publié, je crois, dans tous les pays du monde, cette phrase-là, parce que c'était énorme. Et je pense qu'il a dû compromettre un certain nombre de gens, et que s'il y avait procès Duvalier, il faudrait amener des gens, y compris des gens qui ont été très haut placés. Et donc on a préféré étouffer, on a dit qu'on a trouvé toutes sortes de raisons pour empêcher ce procès.
Donc vous êtes toujours impliqué sur
le
terrain.
Il est toujours en France quelque part.
Hein. Du militantisme et aussi de la création artistique. Vos peintures, Gérald Bloncourt, sont exposées au Musée national d'art haïtien. Qu'est-ce que vous diriez de cette peinture ? C'est une peinture volontairement liée aux revendications de la Révolution,
Non, j'en ai plus. Ah oui, en fait, j'en ai une qui est relativement connue. Enfin, je vais être immodeste, et qui représente les cailles des maisons, mais des maisons à la limite des bidonvilles. Et déjà à cette époque, j'essayais de transmettre ma vision de ce qui pour moi n'était pas juste, mais qui demeurait beau, parce que c'était la maison quand même des hommes, la maison des êtres humains. Et ça me fait revenir une idée dans la tête. Il y a eu un meeting à Paris avec des Haïtiens, et dans la salle, au premier rang, les premiers rangs, c'était des femmes. Et moi, dans ma fougue habituelle, je parle pour dire l'humanité, j'ai dit l'homme. Et d'un seul coup, j'ai vu toutes ces femmes qui étaient là, et j'ai dit avec un grand F.
Comment vivre en dictature ? Quels sont les modes d'emploi ?
Alors là, vous me regardez avec... Oh, il y a une petite sieste dans les yeux là qui passe très très rapidement, Gérald Bloncourt, très en forme. Mais vous pourriez me répondre à cette question, peut-être en nous lisant un extrait de votre poème intitulé « Je me souviens, vous chaussez vos lunettes ». Et je pense, oui.
Ah, je me souviens, il faudrait même que je vous dise un tout petit mot. C'est que quand on m'avait demandé un article sur la mémoire, et j'ai commencé à écrire ce poème, c'est devenu un poème, et j'ai pensé tout de suite à Georges Perec, que j'ai d'ailleurs rencontré au Moulin d'Andé. Et je me suis dit, je suis en train de plager Perec, mais je me suis dit, non, c'est trop beau, il faut quand même que je continue. Alors je vous lis les premières lignes. Je me souviens des purges administrées tous les samedis matins pour guérir des vers, du paludisme et du sang gâté. Je me rappelle la tête coupée, fichée sur une pique qu'une foule en colère a baladée des heures durant dans les rues de Jacmel. Je me souviens l'avoir vu passer, montant et descendant dans le roulis de la manifestation au ras de mon balcon. Je me souviens que le ciel était bleu féroce et que le soleil cernait de lumière le macabre visage. Je me souviens que j'avais 7 ans.
C'est un poème où le poète que vous êtes aujourd'hui donne la main finalement au petit garçon qui a connu la brutalité policière très tôt.
Oui, mais je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vécu toujours dans la violence. Je me rappelle de Diogène, le conteur. Chez nous, c'est des traditions. Ils viennent, ils disent cric, crac. Alors, on répond cric, crac. Et il a une petite devinette en créole. Il dit Captain Ambacabon, ça y est. Alors, ça veut dire, je vous traduis, le capitaine sous le lit, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde de répondre, pot de chambre. Alors, donc, l'histoire commence et continue, mais vous savez, il y a toujours des devinettes comme ça. C'est l'une d'elles que je me souviens. Et Diogène, tous les après-midi, passait devant la maison, on était à Jacmel, et nous racontait une histoire, c'est l'histoire de Erzuli, une histoire comme l'histoire des mille et une nuits qui n'en finissent jamais. Et ce jour-là, alors il y avait une grande barrière et je devais boire mon verre de lait. Moi, j'étais privilégié, j'avais droit à un verre de lait. Maman Dédé me faisait boire mon verre de lait. Diogène est arrivé et j'ai couru. Les autres petits gamins qui habitaient les bidonvilles d'à côté étaient autour de Diogène qui racontait son histoire. Et à ce moment-là est arrivé un camion de la garde. Et il fallait nettoyer la ville de tous les mendiants. Parce que le lendemain arrivait un bateau de touristes yankees. Et donc, tout ce qui était pied à terre, on appelle ça des pieds à terre, était attrapé, matraqué, battu, emmené à des kilomètres de la ville. Et ce jour-là, ils ont matraqué. J'entends encore les coups de coco macaque, de matraque sur le crâne de Diogène. Et il y avait un grand crochet de fer pour ouvrir cette barrière. J'ai voulu l'ouvrir pour permettre à Diogène de rentrer. Mais j'étais gamin, moi, j'avais 7 ans. Hein. J'ai pas pu défaire le crochet. Et je l'ai vu emmener comme ça. Il criait. Et Diogène n'a jamais plus reparu. Et je me souviens, pour reprendre mon poème, c'est d'ailleurs dans mon poème, qu'un voisin a dit qu'il était mort.
Vous avez écrit des poèmes sur cette violence. Est-ce que vous avez réussi à faire des photographies sur cette thématique?
Ben, c'est le seul pays du monde où j'ai jamais pu faire de photos.
Georges Moustaki arrive à point nommé. Et je remarque, Gérald Bloncourt, que vous êtes très très attaché à la chanson française. Hein. Moustaki, avec Sans la nommer, c'est une chanson emblématique de ce que vous avez toujours éprouvé, cet amour pour la liberté.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Est-ce que vous nous diriez... Ah, lui aussi.
Bien sûr, j'ai les photographies.
Vous avez rencontré
aussi
le monde entier. Hein. Georges Moustaki dans le programme En sol majeur de Gérald Blanc.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente.
Georges Moustaki en sol majeur dans votre programme Gérald Bloncourt. Gérald qui vit en France depuis 1947 mais qui ne pense qu'à ça, aux poissons séchés, à Morne-Bourrette et aux jasmins nocturnes de son île natale, Haïti.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit?
Ah ben je hurle à la lutte.
révolutionnaire jusqu'au bout.
Je hurle à la lutte au mon pays, ma terre natale, saline, cicatrice bidonville crucifiée de l'aubonnuit fétide, chaise flanquée, affamée. Ils m'ont dit désaffecté tôt tard dans l'obscurité mensongère. Cogne ma mémoire sur les tôles ondulées aux vibrations de rage. Bave ma rage de cancrène infectée, odeur puante de caniveaux de mort prématurée d'enfants vides au regard remords. Lancinantes accusations d'un monde qui s'accouple avec l'absurde.
Voilà, c'est le poème qui vous est venu à l'esprit.
C'est enfin, un petit bout.
Un tout petit bout, bah oui, je sais bien, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà fait de la poésie en créole, Gérald Blancourt ?
Ah, ça m'est arrivé, mais bon, c'est quand je suis dans le pays.
Ah, il faut que vous soyez immergé dans le
décor. Oui, bien sûr, et c'est plutôt des choses improvisées. Parce que l'écriture, vous savez, c'est notre langue. Tous les écrivains haïtiens, tous les écrivains connus et haïtiens, à part quelques rares exceptions, on a tous écrit en français.
Quel lien vous entretenez avec le créole aujourd'hui ?
Ah ben, je rencontre en permanence des tas de copains haïtiens. On parle des concevants, c'est un bonheur tout de suite. Il y a le petit punch et on parle créole.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison ?
Oh, ma maison, moi je suis contre les meubles. On a une maison à la Babinière, une petite maison de campagne qui était une ruine. Je suis maçon, plombier, électricien, bien sûr. J'ai fait mes meubles, c'est-à-dire ma table avec les tiroirs, la table où on se réunit pour manger, les armoires pour ranger la vaisselle, des choses comme ça. Et à la maison, mais j'ai une petite armoire que j'ai faite de mes mains pour Isabelle, ma compagne. Et puis, on a acheté des trucs, je crois, chez Ikea pour mettre les trucs les plus simples possibles.
Ouais. Et mais ce n'est pas les trucs d'Ikea qui m'intéressent, c'est les photos, les tableaux, peut-être.
Ah, les tableaux. Alors, les tableaux, y a pas, on m'a fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de photos chez moi. Il y a surtout des peintures, mais les deux vont ensemble.
Et quelle peinture, alors, vous avez accroché?
Dans notre chambre, j'ai cette... Attendez, où est-ce
que... Ah non, mais là, on est dans le noir, vous êtes obligé de prendre les mots et vos pinceaux pour nous décrire tout ça.
Prendre les mots, mais quand même avec un exemple. Il y a ce qui s'appelle l'exil, c'est fait d'un seul trait et une série de têtes qui évoquent moi et les autres et tous ceux qui avons dû partir, quitter notre pays. Et elle a eu un certain succès puisque Beaubourg l'a pris pour faire le fond d'une scène où il y a eu la semaine des écrivains exilés. Ils l'ont agrandi sur 7 mètres. Et quand je suis arrivé, j'étais avec Mimi Barthélémy, une chanteuse de chez nous.
Une conteuse, ouais.
Et elle me donnait le bras et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça faisait 7 mètres. Elle m'a dit, mais c'est toi, Gérald. J'avais pas reconnu que c'était moi tellement c'était grand. J'étais sidéré de voir mon dessin tellement agrandi. Et oui, j'ai quelques peintures. Il y a des peintures de Morgane, ma fille.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir multiplié un regard sur cette histoire originelle avec Haïti, à savoir votre expulsion, un regard morbide sur votre histoire ?
Oh, je ne pense pas.
J'ai coupé la gorge du temps, c'est le titre de cette peinture qui est accrochée chez vous.
Eh bien, bien sûr, parce que quand j'ai rencontré Isabelle dans le métro, ça va faire 20 ans, elle a fait de moi un jeune papa, c'est la mère de Morgane. Et j'ai écrit un poème qui s'appelle Isabelle de Paris. Et je crois que j'ai commencé un peu comme ça. J'ai coupé la gorge au temps, parce que j'étais quand même beaucoup plus âgé qu'elle. Alors il fallait bien que je m'arrête. D'ailleurs, je m'arrête et je vous laisse tous me rejoindre. Moi, je veux plus aller plus loin, je vous attends.
Sympa, il veut tout partager.
C'est pour ça que j'ai coupé la gorge au temps. C'est une volonté de tenir.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Gérald Blancourt. Je signale que l'on peut voir votre travail sur votre site car vous êtes très branché Internet. Vous nous dépassez tous. Hein. Vous nous rappelez l'adresse de votre site ?
Oh là, on fait Blancourt, ça suffit.
Blancourt, très bien. Et puis on va se quitter avec les larmes parce que quand
surtout
on est...
Surtout le blog, il faut voir le blog.
Ah, il faut voir le blog aussi. Oui. Ah oui, très important le blog. Le blog dans Sol Majeur, vous renverra sur le blog de Blancourt.
Ça suffit et on trouve.
Ok. On va se quitter avec les larmes puisqu'il paraît que quand on écoute Mouloudji, ça se termine toujours un petit peu comme ça. Mouloudji qui donne une version du déserteur un petit peu plus soft, en tout cas moins agressive que celle de Boris Vian, le créateur de cette chanson. Et vous teniez à cette version du déserteur.
Oui, parce que c'est pour moi, ça fait partie de l'ensemble des idées auxquelles j'ai cru, auxquelles je crois encore profondément. Il faut déserter la violence, il faut déserter cette façon dont on veut nous faire vivre. Il faut un monde nouveau, un monde meilleur. Et pour moi, le déserteur, c'est un acte courageux contre toutes les censures, contre toutes les menaces, et qui appelle à la désobéissance.
Donc la révolution continue.
La révolution, bien sûr.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Des mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. Il y a des prisonniers, on a volé leurs femmes et tout leur cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte.
Caroline Filliette, Marc de l'Ouvrier, Thomas Ferrier, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, toujours en sol majeur.
Un sol majeur.
Sol majeur.